7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons de l'eau potable dans les pays du Sud. Plus de 800 millions de citadins n'ont pas accès à l'eau courante dans les pays en développement. Alors, il y a bien sûr des problèmes de raccordement, mais aussi et surtout des problèmes de prix. De Bamako à Abidjan, les plaintes des consommateurs sont récurrentes. Ils trouvent leur facture d'eau trop salée, à tel point que dans certaines villes, eh bien, les voisins qui ont les moyens et de l'eau sous leurs pieds se font creuser un puits, histoire de ne plus avoir de discussions stressantes avec la société d'eau dans leur pays. Et pour les plus pauvres, eh bien, c'est le prix fort de l'eau privatisée vendue en bidon, l'eau courante la plus chère du monde. Alors comment améliorer la distribution, la commercialisation de ce bien commun? Faut-il impliquer davantage les citoyens? Nous allons en discuter à la lumière de différentes expériences, notamment celle de Bornefontaine, gérée par des habitants de leur quartier à Kinshasa et qui court-circuite les services de la société d'eau. Nous serons en ligne là-dessus avec Justin Louvumbu, le président des Azureb dans la capitale congolaise. Nous ferons aussi un détour par Ouagadougou avec Alice Imboro qui est ingénieur hydraulique et fondateur du projet Farafina Eco Water pour lutter contre le gaspillage d'eau, notamment dans les quartiers très aisés à Ouaga, un paradoxe dans ce pays qui en manque tellement. Jean Bosco Bazier, lui, dirige l'ONG Eau Vive qui intervient dans 12 pays d'Afrique et il nous dira aussi son point de vue. Et puis nous recevons en studio Grégoire Landel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de CityTaps, votre entreprise française travaille au Niger, mais compte évidemment s'étendre à d'autres pays du continent. En gros, vous proposez aux habitants un système de paiement à la consommation et en petite quantité, à la différence de la facturation classique mensuelle qui en général génère de grosses surprises, pour ne pas dire plus, pour les consommateurs. Vous nous expliquerez comment ça fonctionne. Et chez vous, les voisins, on dit quoi sur les factures d'eau? Quelle solution pour améliorer ce service? Vous nous appelez dès maintenant. Et bien sûr, tous vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je vous lis le message de Claudie, un voisin qui est très énervé à Libreville, au Gabon. Ce sujet tombe très bien, car pas plus tard que la semaine dernière, ma facture d'eau s'est levée à... j'ai le prix en euros, 1520 € pour 6 mois. Ce qui fait en CFA, si je ne me trompe pas, 100 000 francs CFA, c'est ça, 1520 € pour 6 mois, nous dit Claudie. On a du mal à le croire. Vous y croyez d'ailleurs, nous dit Claudie. Et à l'agence, ils m'ont répondu, c'est ce que vous avez consommé. Voilà, il est extrêmement énervé. On a également une auditrice en ligne, Marina, qui est aussi mécontente, cette fois-ci de la qualité de l'eau à Libreville. Bonjour Marina.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Vous avez entendu le témoignage que j'ai lu posté par Claudie sur Facebook à Libreville, dans la même ville que vous?
Oui, et je viens de l'écouter et je le confirme. Moi, je ne paie pas de facture d'eau, bon, puisque je suis encore chez mes parents, mais selon les témoignages des uns et des autres, les factures d'eau sont très élevées en ce moment à Libreville. Mmh. Et beaucoup de consommateurs se demandent pourquoi. C'est là, est-ce que ce sont des problèmes au niveau de la société? Ou autre chose, quoi. Et moi, particulièrement, j'aimerais intervenir surtout par rapport à la qualité de l'eau. Mmh. Parce que c'est dommage que des populations soient obligées de consommer une eau qui soit, disons, est potable, mais par rapport à ce que l'on voit, que l'on observe, elles ne sont pas exploitables. Mmh. Parce que déjà, lorsque vous ouvrez vos robinets le matin, l'eau est d'une couleur marron et... Si vous prenez de l'eau dans un récipient, vous laissez reposer même 5 à 10 minutes et on voit en dessous du récipient des dépôts.
Oui.
Et donc, on se demande qu'est-ce qu'on boit finalement et pourquoi, surtout pourquoi l'État reste insensible à ce problème.
Oui. Et surtout pourquoi on vous fait payer une eau qui soi-disant est potable et qui ne l'est pas, hein, on est bien d'accord.
Bien
donc,
sûr.
Donc votre facture ne correspond pas au produit pour lequel vous payez.
Bien sûr.
Merci beaucoup Marina de nous avoir appelé. Alors il y a d'autres messages de voisins passablement énervés. Grâce à Pointe-Noire, Congo Braza nous dit non seulement l'eau potable est chère, mais en plus elle est très rare. Il arrive parfois qu'on n'ait pas d'eau pendant des mois et on reçoit quand même les factures. Alors là aussi c'est quand même tout de même assez inexplicable. Grégoire Landel.
Alors Déjà, je vais préciser que je ne suis pas le porte-parole de tous les opérateurs d'eau africains.
Mais votre société française, voilà. Évidemment, est en permanence avec des sociétés d'eau.
J'ai eu l'occasion de travailler dans de nombreux de ces pays, alors jamais au Gabon, mais dans de nombreux pays d'Afrique francophone et anglophone. Et les sujets qu'amènent vos auditeurs sont des sujets réels, les sujets qui ont trait à la fiabilité de l'approvisionnement et à la qualité de l'eau sont vrais. Il faut bien comprendre quelque chose de très important, c'est qu'avec le dynamisme urbain des villes du pays, du continent, et avec la lenteur relative des programmes d'investissement, ça prend du temps d'installer des tuyaux, ça prend du temps de construire des usines pour transformer l'eau brute en eau potable.
Ça explique les défauts d'approvisionnement.
Voilà, ça explique, et aussi des défauts de qualité, parce que l'eau brune dont parle la personne qui vient de nous appeler, la voisine qui vient de nous appeler, ça vient très probablement, alors je ne connais pas les spécificités du cas, mais ça provient très probablement de l'état des tuyaux eux-mêmes. Or, ces tuyaux, pour les remplacer, il faut faire des travaux. Et la réalité, c'est que personne n'a jamais été réélu en immobilisant la circulation routière pendant des mois pour remplacer des tuyaux.
Par contre, on peut être réélu en promettant qu'on ne fera pas bouger les tarifs de l'eau, hein, même si on le fait quand même.
Tout à fait, tout à fait. Et là, il y a justement cette tension entre un désir de la population légitime d'avoir de l'eau à un coût qui est faible... Et un désir d'avoir d'être fourni en eau de qualité et 24 heures sur 24. Or, la réalité qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'eau qui sort du robinet, c'est un produit industriel. C'est un produit industriel qui est produit dans une usine. Cette usine se fournit en eau brute, dans la nature. Elle peut venir d'une rivière, elle peut venir du sous-sol, etc. La qualité de cette eau brute va impacter... ce qu'on va faire pour la traiter. Donc tout ça, c'est très compliqué. Chaque ville et chaque localisation a sa spécificité, parce qu'on ne peut pas envoyer l'eau sur des centaines de kilomètres comme on le fait avec le pétrole, parce que sinon on la paierait beaucoup trop cher, une fois de plus. Donc il y a toute une série de variables que la plupart des gens, fort heureusement, ignorent et dont ils ne se préoccupent pas.
Ceci dit, ça n'explique pas pourquoi on peut payer des factures, on peut recevoir des factures pour une eau qu'on n'a pas consommée, pour cause, puisqu'on ne l'a pas eu au robinet. Quand on ouvre le robinet, ça ne coule pas.
Alors, je ne connais pas les spécificités.
Mais on a pas mal de messages qui vont dans le sens dans plusieurs villes.
Hein. D'accord. Et les problèmes de relève des compteurs sont des vrais problèmes. Ouais. C'est d'ailleurs un de ces problèmes que mon entreprise... souhaite résoudre.
Alors, on va en parler, bien sûr. Je continue de vous lire tout de même quelques messages, histoire qu'on prenne un peu l'ambiance sur le sujet. La température, plutôt. Diaby à Bamako nous dit « Moi, je loue une maison dans laquelle il n'y a pas d'eau courante, tout simplement parce que le coût d'installation est très cher, tout comme celui pour avoir l'électricité chez soi. Mais j'ai cette chance énorme d'avoir un voisin qui accepte que je vienne me servir en eau chez lui et à volonté, que Dieu le bénisse, ainsi que sa famille. » Voilà, le message est passé à l'antenne pour ce voisin super sympa. Jackie Antananarivo nous dit « L'eau du robinet chez nous est utilisée uniquement pour faire la cuisine, pour se doucher, pour laver nos vêtements. Là, on utilise l'eau des puits. Et grâce à cette technique, la facture est bien moins chère. Il faut savoir gérer son budget. Encore faut-il avoir un puits chez soi, dans sa cour.
Encore faut-il avoir payé pour creuser un puits. Et il faut bien se rendre compte que ce type de comportement va impacter les comptes de la société d'eau, en l'occurrence à Tana, et qui donc n'aura pas les revenus dont elle a besoin pour pouvoir servir les autres populations, et
donc,
en particulier ceux qui ne pourront pas
citoyen,
se payer un puits.
Pas citoyen du tout de se faire creuser son puits.
C'est
en
pas
même
que
temps,
c'est pas citoyen.
C'est la meilleure solution.
Si vous n'avez pas le choix, si vous vraiment vous n'avez pas d'eau, ok, moi, il n'y a personne qui va vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Mais de dire, moi, je réduis ma facture en me creusant mon puits perso tranquillou dans mon petit coin, c'est effectivement, à titre personnel, je considère que ce n'est pas citoyen. Parce que c'est le service de l'eau, c'est un service qui est mutualisé. La personne qui habite à 10 ou 15 km de la station d'épuration, ça coûte beaucoup plus cher de lui fournir de l'eau que celle qui habite à 1 km. Donc s'il y a des gens qui se décident de sortir du réseau, le coût du fait qu'ils ne consomment pas et qu'ils ne payent pas est réparti sur tous les autres.
En même temps, avec la croissance urbaine, il y a quand même du monde sur un réseau, hein, général.
Alors effectivement, dans les cas où...
A priori, il y a du monde pour payer, si tant est que les gens soient solvables. Je vous lis le message de Bourgeois qui nous dit « Boire de l'eau courante et potable au Tchad, c'est un vrai luxe, c'est de la merde ici et chaque fin de mois, il faut régler la facture et les chiffres ne correspondent pas du tout à ce que nous avons consommé. » Vous voyez, des problèmes de compteur. Mundu, étudiant à N'Djamena, nous dit « Il y a quelques mois, j'ai dû être hospitalisé à force de transporter l'eau potable. Vous voyez, pas d'avoir bu de l'eau non potable, mais d'avoir transporté l'eau potable d'une fontaine jusqu'à chez moi. Ce travail quotidien nécessaire pour vivre a déplacé mes côtes. Hein. Ouais. C'est quand même incroyable.
Ça m'étonne pas, c'est incroyable,
et
mais
oui,
ça m'étonne
et
pas.
Oui, si c'est lourd.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Grégoire Landel, donc vous êtes le fondateur de CityTaps, une entreprise sociale pour le raccordement à l'eau en Afrique. En fait, votre entreprise a été distinguée par un prix de start-up innovante en Afrique par l'Agence française de développement. Vous êtes parti du principe que la facturation de l'eau par les sociétés d'eau, qu'elles soient publiques ou privatisées, n'était pas adaptée aux habitants. C'est ça, hein, au départ.
Absolument. C'est, en fait, on est parti du constat que d'un côté, les gens avaient besoin de pouvoir payer une facture dans laquelle ils pouvaient avoir confiance et pour des montants qu'ils contrôlaient. Et de l'autre côté, du besoin légitime des opérateurs d'eau de se faire payer pour le service qu'ils fournissent. Mmh. Parce que s'ils n'ont pas d'argent, ces opérateurs d'eau, la qualité du service va de toute façon péricliter de plus en plus. Donc on rentre dans une espèce de spirale de la mort où ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas investir, donc la qualité va moins bien, donc les gens ne veulent pas payer, donc ils n'ont pas d'argent, et ainsi de suite. Et on se mord la queue.
Des factures qui sont mensualisées, hein, en des général, dans les sociétés d'eau.
Voilà, majorité des cas en Afrique, les gens reçoivent une facture mensuelle. Alors là, on a eu le cas de quelqu'un qui a reçu une au Gabon tous les 6 mois. Donc là, il y a eu un dysfonctionnement, clairement. J'imagine en tout cas, et c'est pour ça que c'était aussi cher. Maintenant, nous, ce qu'on propose à travers notre système, c'est que les gens puissent payer en avance, donc prépayer leur consommation d'eau en mettant par exemple 1000 francs ou 2000 francs CFA sur leur compte.
Donc des petites sommes.
Des sommes qu'ils choisissent eux-mêmes. Mmh. Nous avons des utilisateurs qui créditent 2000 francs, d'autres qui créditent 5000 francs, d'autres qui créditent 500 francs.
Tout ça à partir de son téléphone portable.
Voilà, tout ça à partir de son téléphone.
On crédite sur un porte-monnaie électronique réservé à la facture d'eau. C'est
voilà,
ça
en fait, on utilise, dans notre cas, Orange Money, qui existe à Niamey, pour créditer un compte eau. Et ce compte eau est relié à votre compteur. Et quand votre crédit est terminé, l'eau se coupe chez vous. C'est exactement la même chose.
Ah oui, c'est radical.
Voilà, mais en même temps, vous vous êtes prévenu à l'avance, etc. C'est exactement comme votre compte voix de téléphone.
Donc,
où vous mettez
1000
francs,
oui.
Et puis quand il n'y a plus de minutes, vous remettez 1000 francs pour pouvoir parler à nouveau. C'est exactement la même chose.
Ça ne diminue en rien le prix de l'eau
par rapport aux
autres.
Alors, ça peut le diminuer dans les cas où il y a une facturation qui n'est pas toujours la même pour tous les mètres cubes. Donc comme nous, on fait une facturation en appliquant exactement les barèmes de tarification, on n'a plus d'effet où si le releveur de compteur vient au bout de 40 jours au lieu de 30 jours, vous allez payer les 10 jours potentiellement dans la tranche supérieure. Et donc là, il va y avoir un effet bénéfique pour le consommateur.
Et l'autre effet surtout, c'est qu'on surveille sa consommation et on sait exactement, là, il n'y a plus d'embrouille de facture pratiquement.
Voilà. On n'a plus la facture à 15 000 francs qui débarque tout d'un coup et on ne sait pas pourquoi. Et ensuite, on doit aller faire la queue à l'agence, expliquer que non,
donc
c'est faux.
Donc on paye à la consommation, hein, c'est ça, via ce compte réservé, prépayé.
On prépaye au fur et à mesure de sa consommation.
Ça marche ?
Ça marche.
Auprès des habitants ?
100% de satisfaction.
Combien d'habitants aujourd'hui à Niamey?
Aujourd'hui, nous avons équipé 20 foyers, enfin 20 parcelles, 250 personnes avec notre système et ils sont tous contents. Alors évidemment, on est à petite échelle, mais nous avons aussi beaucoup de demandes en ce sens et je pense que l'aspect pratique au fait aussi, l'aspect de ne pas être obligé de se déplacer pour payer sa facture, d'avoir une facilité de le faire avec son téléphone, il joue pour beaucoup. De l'autre côté, l'opérateur est content aussi parce que lui, il est payé.
Nous sommes en ligne avec Jean Bosco Bazier qui est ingénieur et directeur de l'ONG Eau Vive. Bonjour Jean Bosco Bazier.
Bonjour.
Jean Bosco, vous êtes à Ouagadougou, mais votre ONG Eau Vive intervient dans 12 pays d'Afrique, hein, dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de ce système de factures prépayées d'eau, puisque on parlait bien sûr de la difficulté pour les habitants de payer leurs factures d'eau, ce qui n'arrange pas les sociétés d'eau en général?
Bon, alors, ce que je peux dire, hein, que ce soit prépayé ou postpayé, il faut quand même poser le problème de la ressource brute, parce que pour délivrer les services, il faut avoir de l'eau brute.
Il faut qu'il y ait de l'eau dans les tuyaux, on est bien d'accord. Hein.
Ne pas mélanger eau brute et eau traitée.
Et pour qu'il y ait de l'eau dans les tuyaux, il faut que l'opérateur, qu'il soit public ou privé, en tout cas celui qui produit l'eau propre et la distribue, il faut qu'il ait l'eau brute à partir de laquelle il va donc distribuer cette eau potable dans les tuyaux.
C'est ça, l'eau brute qui n'est pas encore potable, hein, on est bien d'accord.
L'eau brute qui est celle qui est dans la rivière.
Qui n'est pas encore potable. Exactement. Et vous savez très bien que dans la plupart de nos pays, bon, en dehors de certains pays comme les Congos qui ont les pieds des villes, des grandes villes comme Kinshasa ou Brazzaville, qui ont les pieds dans le Congo, dans le fleuve Congo, la plupart sont quand même confrontés à ce problème de ressources brutes. La ville de Dakar, il faut quand même le rappeler, est approvisionnée à partir du lac de Guerre qui est à plus de 200 km. Ouagadougou même, aujourd'hui, est alimenté à partir de l'eau mobilisée sur une batterie de barrage à une quarantaine de kilomètres. Et sinon, il faut aller la chercher en profondeur. Donc tout cela a un coût, un grand coût d'investissement. Et je ne vois pas comment on peut parler de l'eau dans les tuyaux et du prix, qu'il soit post-payé ou prépayé, si on n'a pas réglé en amont ce problème de la ressource. Voilà ce que je peux déjà dire pour au moins vous poser le problème auquel nos pays sont confrontés. Mmh.
Je vous rejoins à 100% sur votre analyse.
Jean Bosco, vous êtes toujours en ligne avec nous ?
Oui. Oui, je suis toujours en ligne.
D'accord. Alors, sur cette eau brute, bon, ceci dit, vous nous disiez, ça nécessite des investissements, de l'entretien aussi. On sait qu'il y a énormément de gaspillage à travers les canalisations. Je ne sais plus quels sont les chiffres du gaspillage de l'eau aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a autant d'eau gaspillée que d'eau produite et consommée ?
Alors, dans le domaine de l'eau, il faut bien savoir, la réponse est toujours ça dépend.
Hein ?
Donc, parce que ça dépend de beaucoup de choses, mais les chiffres que moi j'ai en tête, c'est qu'entre 25 et 50% de l'eau qui est produite dans les stations de traitement va être perdue avant d'être livrée aux consommateurs.
Ouais, avec des
et ça, je parle
par
uniquement des pertes physiques.
Ouais.
Voilà.
Mais d'ailleurs, l'Afrique n'est pas du tout n'est pas sur une situation à part. Hein. Il y a énormément de fuites d'eau sur des canalisations dans des pays en Europe également.
Il y en a. Je pense que les pays d'Afrique où j'ai eu le privilège de travailler font quand même figure d'endroits où on pourrait nettement améliorer la situation. Et c'est en grande partie dû au fait qu'il n'y a pas eu assez d'investissement.
Jean Bosco Bazier, je vais vous poser...
Noter.
Oui, je vous écoute, je vous en prie, allez-y.
Voilà, j'ai dit qu'il faut quand même noter qu'en 25 ans, hein, en 90 et 2015, la plupart des pays ont fait d'énormes progrès.
C'est vrai.
Ont quasiment doublé la couverture des services d'eau potable, hein, que ce soit en ville ou en campagne. Globalement, les moyennes nationales ont été multipliées par deux. Mais il reste qu'à l'intérieur de ces progrès-là, ben, se réfugient d'énormes disparités entre le rural et l'urbain, parce que vous savez que les populations ont été aussi multipliées par deux, hein, entre-temps, et que les problèmes aussi se sont multipliés par deux. Donc, malgré ces progrès qui sont quand même perceptibles, la question de l'équité au niveau des tarifs reste aujourd'hui le refuge des gros soucis auxquels sont confrontés les États, les collectivités, mais aussi les usagers.
Alors vous restez avec nous, Jean Bosco Bazier. Nous allons rendre l'antenne pour le flash, mais vous avez effectivement bien posé le problème. Comment faire en sorte que les équipements, que l'entretien soient suffisamment rapides par rapport à cette croissance urbaine, toujours plus d'habitants hein, à qui il faut fournir de l'eau. Et puis surtout, les prix sont-ils trop élevés aujourd'hui par rapport aux revenus des habitants dans les villes africaines ? Nous allons en discuter. Nous donnerons également la parole à un gestionnaire de bornes fontaines à Kinshasa. Nous revenons dans un tout petit peu plus de 3 minutes. Vous restez avec nous, suite de l'émission sur les prix de l'eau. Comment faire baisser la facture ? Et vous nous appelez, bien sûr. 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Suite de l'émission sur les prix de l'eau dans les pays du Sud et notamment dans les villes africaines, bien sûr, parce que vous êtes nombreux à nous envoyer des messages, à vous plaindre. On sent votre énervement. Comment faire baisser la facture dans les villes africaines? Manque d'investissement, défaut d'entretien, mauvaise gestion aussi des sociétés d'eau, pour parler pudiquement. Et surtout, en même temps, une croissance urbaine très rapide avec des quartiers qui gagnent en habitants toujours plus vite que les installations d'eau à proprement parler. Des solutions intéressantes qui sont testées. On en discutait avec vous, Grégoire Landel. Vous êtes fondateur d'une entreprise française, CityTaps, qui œuvre pour le raccordement à l'eau en Afrique, en fait, avec un système de prépaiement où le consommateur paye l'eau d'abord en toute petite quantité et puis à l'avance, ce qui évite les embrouilles de factures, pour parler très clairement à la fin du mois et les très mauvaises surprises. Je voulais vous lire, tenez, le message d'Abdoulaziz à Zinder, qui nous dit « L'eau est moins chère au Niger. » Justement, c'est là que votre société travaille. Hein. C'est le premier pays où vous démarrez votre projet. L'eau est moins chère au Niger. Deux bidons de 25 centilitres coûtent 25 francs CFA, c'est-à-dire à peu près 4 centimes d'euros. C'est rien par rapport à ailleurs. Alors là, on parle de l'eau libéralisée au bidon.
Alors je pense qu'il fait référence à l'eau qu'il achète au Garoua. Donc c'est le livreur d'eau en Zarma. Alors c'est un tarif qui effectivement est très faible par rapport même à Niamey, où on est plutôt sur une base de 25 francs le bidon de 25 litres, voire 50 francs pour le bidon de 25 litres. Donc 1000 à 2000 francs le mètre cube, alors que le tarif réglementé est de 127, 321 ou 515 francs, suivant la tranche tarifaire dans laquelle vous vous situez.
Beaucoup moins cher quand on a l'eau qui arrive à la maison avec un robinet.
Et le truc qui est pour moi est quelque part insupportable et qui a mené à la fondation de CityTaps, c'est que ce sont globalement les plus aisés, les plus riches, qui vont bénéficier du tarif réglementé et donc beaucoup, beaucoup moins cher, et les plus pauvres qui vont payer des tarifs qui, même s'ils restent à Zinder assez faibles, sont quand même très élevés. Enfin, sont très élevés.
10 fois, 15 fois plus cher, c'est ça?
Et ça, c'est absolument insupportable.
Nous sommes en ligne, alors justement, avec des habitants qui payent l'eau au bidon. Bonjour, Justin Louvumbu.
Bonjour, Emmanuel.
Justin Louvumbu, vous êtes le président d'une organisation communautaire de Bornefontaine à Kinshasa. Ça s'appelle les Azurep. Ça concerne trois communes excentrées à Kinshasa, donc qui n'ont pas l'eau courante au robinet. Vous alimentez avec cette gestion communautaire 700 000 personnes. Donc 700 000 personnes qui achètent leur bidon d'eau, mais non pas à des sociétés privées qui engrangent des bénéfices et qui s'enrichissent sur le dos des habitants, mais grâce à une organisation qui est gérée par les habitants eux-mêmes, avec des fontainiers qui tiennent les bornes fontaines. Vous générez 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Comment c'est possible? Les habitants payent l'eau aussi cher, moins cher, plus cher que la société d'eau au bidon?
Oui, au bidon. D'abord, notre tarif est à la portée de toutes les bourses et l'intérieur, à la règle des eaux. Et en plus, nous offrons à la population l'eau de meilleure qualité, contrôlée trimestriellement au laboratoire des universités de Louvain, en Belgique, et Louvainium, ici à Kinshasa. Et puis ce qui est intéressant chez nous, c'est le fait que les gens payent de façon adaptée, c'est-à-dire à leur vie, parce qu'il y a des gens qui vivent au jour le jour, et ils payent facilement chaque jour un bidon d'eau à 0,04 euros. Un bidon de 25 litres.
C'est-à-dire que c'est le tarif, en fait, de la société d'eau. C'est le même tarif, non?
Non, nous sommes légèrement inférieurs au tarif de la société nationale.
Alors, comment vous faites pour facturer des bidons d'eau moins chers que la société d'eau, que la société nationale d'eau au Congo?
Non, en fait, comment nous réussissons? C'est d'abord le fait que la population est organisée en association, et nous avons élu par rue des délégués qui constituent l'Assemblée générale représentative, qui se réunissent semestriellement et prennent des sanctions, des décisions pour la pérennité de la fourniture de l'eau. Et puis ici, l'eau est devenue l'élément fédérateur qui fait tomber toutes les barrières, même ethniques, au profit du développement de la communauté. C'est-à-dire que tout le monde réfléchit pour voir comment l'eau peut servir de levier de développement du quartier. Et l'information circule de porte à porte par le truchement des délégués élus démocratiquement parus.
C'est ça, des délégués. Alors évidemment, c'est un système qui fonctionne beaucoup sur le bénévolat, avec des habitants qui participent à la gestion communautaire de l'eau. Néanmoins, il faut payer les fontainiers. Hein.
Oui, les fontainiers sont motivés. C'est-à-dire que
Ils sont motivés, mais enfin, ils sont payés. Ils gagnent leur vie quand même en vendant les bidons d'eau et en gérant les bornes fontaines.
Oui, ils gèrent, mais s'ils ne veillent pas au grain, on peut avoir de manquants. Et quand ils n'en commettent pas, nous faisons une sanction positive, des primes, parce qu'il n'y a pas de manquants.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un système de compteur hein, où vous contrôlez extrêmement bien le travail des fontainiers et donc, on va dire que l'argent qui disparaît est très rare.
Est très rare, ouais. Ça, c'est effectivement ça.
D'accord, mais à qui vous achetez l'eau qui sort des bornes fontaines dans ces trois communes excentrées à Kinshasa?
Non, nous avons des forages. L'eau vient des forages. Des forages équipés d'équipages électromécaniques un peu importants. Il y a le groupe générateur, parce qu'on n'a pas de courant en milieu périurbain. Et puis, il y a aussi le pompe immergé qui tire l'eau de forage vers le réservoir.
Donc, en fait, vous court-circuitez complètement la société d'eau, hein, c'est Système D, vous avez fait des forages, et il y a une gestion participative des citoyens qui sont très impliqués. Vous limitez énormément le gaspillage, je sais. Hein, dès qu'il y a une fuite d'eau, tout ça est très contrôlé, on appelle tout de suite le plombier pour qu'il vienne réparer les canalisations, c'est bien ça?
Exactement, Emmanuel. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une gestion de proximité.
Ouais.
À la moindre panne, nous sommes avertis par la population et on intervient. Ouais. Et comme je l'ai dit à Paris, il n'y a pas une fuite, quelle que soit sa grandeur, au niveau de la ville.
Mais alors, c'est sûr. Votre société communautaire hein, est super bien gérée. Grégoire Landel, vous souhaitez intervenir?
Oui, d'ailleurs, d'abord, je vous applaudis parce que c'est remarquable d'avoir réussi à faire ce que vous faites. C'est une très bonne initiative. La première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous êtes à l'équilibre financier entre vos coûts d'exploitation, les amortissements de vos investissements et les revenus que vous générez?
Est-ce que vous perdez de l'argent
ou est-ce que vous êtes dépendant d'une subvention extérieure?
Non, nous ne dépendons de rien. Nos comptes sont au beau fixe. Nous gérons bien, nous avons des comptes bancaires. Et d'ailleurs, nous sommes en train de renouveler même les équipements, équipements lourds. Groupe électrogène de 40 kVA ou 50 kVA et des pompes immergées.
Ouais. Donc, oui, parce que ce qu'il faut dire aussi...
Sur vos fonds propres, vous faites ça sur vos fonds propres.
Exactement.
C'est ça,
exactement.
Sur le revenu de la vente des bidons d'eau qui coûte en plus un peu moins cher que que l'eau commercialisée par la société d'eau. Et vos coûts de fonctionnement, c'est-à-dire les forages, générateurs, les bâtiments administratifs, etc., sont moins élevés que les coûts de fonctionnement de la société d'eau, ce qui évidemment envoie un message tout de même assez intéressant à l'antenne, à la société d'eau congolaise. Quelles sont vos relations avec les pouvoirs publics et la régie d'eau nationale aujourd'hui, Justin Luvumbu? Je veux dire, pas vous personnellement, bien sûr, mais les AZUREP, les bornes fontaines.
Et au niveau de l'autorité nationale, il n'y a pas de problème parce qu'on a même promulgué en 2016 la loi sur l'eau dans laquelle apparaissent les AZUREP. Mais c'est seulement au niveau des autorités politico-administratives.
C'est ça, la société d'eau n'a plus le monopole. Donc vous êtes dans la légalité.
Actuellement non. Avec la loi sur l'eau... beaucoup d'intervenants peuvent bien le faire en cette matière d'eau.
Merci beaucoup de nous avoir appelés. Évidemment, on peut se demander si ce type d'expérience peut être modélisable ou pas, Grégoire Landel.
Moi, j'ai une autre question pour vous.
Justin, vous êtes toujours en ligne avec nous à Kinshasa, Justin Luvumbu.
Exactement. Ouais. Exactement.
Oui. Est-ce que vous prévoyez, à partir de cette eau que vous forez, d'offrir à la population des branchements individuels? Et si oui, dans quelles conditions?
Parfaitement, nous sommes en train de le faire. Il y a des agriculteurs qui ont maintenant jusqu'à 70 branchements privés. Moi, pour mon cas, à mon âge, j'en ai maintenant une dizaine. Donc, nous sommes entrés dans cette phase-là. On est en train de brancher déjà individuellement, c'est ça.
Mais pour l'instant, l'immense majorité des 700 000 personnes qui s'approvisionnent à vos bornes fontaines et achètent les bidons d'eau font le trajet de la maison à la borne fontaine.
Oui, à 200 mètres. Maximum 250 mètres de la maison à la borne fontaine.
Maximum 250 mètres. Bon, bah, peut-être pas de quoi de se démettre une côte, comme nous le disait cet auditeur qui nous disait qu'il avait dû se faire hospitaliser à force de porter de l'eau, qu'il s'était cassé les côtes. Merci beaucoup de nous avoir, d'avoir été en ligne avec nous, Justin Louvumbu. Je vous lis le message d'Olivier qui est à Yaoundé. Payez moins pour avoir de l'eau. Utopie au Cameroun. Les citoyens s'impliquent davantage dans les quartiers et localités où la pénurie d'eau est devenue normale. Les populations se rassemblent pour financer la construction de forages et de puits. C'est toujours la même chose, c'est aujourd'hui le système D qui est finalement privilégié, Grégoire Landel.
Tout à fait, puisque de vivre sans eau, c'est non seulement impossible, mais en plus insupportable. Donc les gens, devant la nécessité, vont s'organiser pour trouver les solutions. C'est d'ailleurs pour ça que les plus pauvres sont ceux qui vont payer le plus cher leur eau. Parce que les gens dont parle Olivier là, ils vont... Se rassembler, financer eux-mêmes leur forage, qui va leur coûter 30 000, 40 000 euros, ou s'ils n'ont pas de chance, 100 000. Ensuite, il va falloir payer l'essence qui va leur permettre de pomper l'eau. Ensuite, il va falloir s'assurer qu'elle est de bonne qualité. Tout ça, ça coûte très cher. Justin serait capable de nous expliquer exactement en détail ce que ça lui coûte. Ou alors, il faut payer des panneaux solaires. Donc, ça devient rapidement très coûteux. Et c'est pour ça qu'en fait, la mutualisation à travers les sociétés, des sociétés d'eau, c'est quand même la meilleure solution.
Mais, si elles fonctionnent et si elles sont bien gérées.
C'est ça, mais quand elles ne sont pas là, les gens n'ont pas le choix. Et c'est bien problématique.
Nous accueillons un auditeur, Fodé, qui nous appelle de Dakar. Bonjour Fodé.
Bonjour Emmanuel, bonjour les 7 milliards de voisins.
Fodé, donc, vous souhaitez vous exprimer, je crois, sur le gaspillage d'eau à Dakar, c'est bien cela?
Effectivement, à Dakar, le gaspillage est beaucoup plus notable dans le secteur de l'eau que dans le secteur de l'électricité. C'est-à-dire dans les ménages, dans les services publics, les hôpitaux, les écoles, les camps militaires. Il y a beaucoup de gaspillage d'eau. Par exemple, je m'explique, un robinet qui a une fuite d'eau va couler à des heures d'affilée avant de faire appel à un plombier pour la réparation. Alors qu'une télé, un ordinateur, une radio ou bien un appareil qui est branché, s'il n'est pas utilisé immédiatement, il est automatiquement débranché.
C'est vrai.
Donc les gens sont plus conscients de la facture d'électricité qui coûte très cher que de la facture de l'eau qui n'est pas aussi chère, parfois 4 euros, 5 euros, voire jusqu'à 20 euros.
C'est vrai ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Hein. C'est d'ailleurs assez étonnant, Grégoire Landel.
Oui, les gens se plaignent de parler trop cher et de payer trop cher et globalement, sauf les plus démunis, ne font que très peu attention à leur consommation d'eau.
Et personne ne songerait à laisser une pièce avec une ampoule grillée s'il n'y a personne dans la pièce.
Et par contre, on laisse facilement un robinet goûter. Alors c'est un des avantages du système de CityTaps, c'est que cette fuite peut être détectée, la personne peut en être informée, il va rapidement se rendre compte de combien ça lui coûte. Et donc, on espère, aura l'initiative
Parce qu'avec votre système, c'est ça, on paye au fur et à mesure, sur de toutes petites quantités d'eau. Donc, forcément, puisqu'on a crédité son porte-monnaie électronique sur son téléphone, donc on se rend tout de suite compte si tout d'un coup, les 2000 francs CFA sont partis tout de suite, alors qu'on n'a pas consommé d'eux, on s'en rend compte immédiatement.
Alors, on peut aller voir ses enfants en leur disant, vous arrêtez, voilà. Arrêtez de jouer dans la cour. Ou alors, on peut se rendre compte qu'on a un problème de fuite ou un problème de quelqu'un qui vous vole, qui vient chez vous, qui se sert, qu'on n'a pas autorisé. Voilà. Et à terme, je rejoins tout à fait notre voisin qui nous appelle. Le fait de faire des économies d'eau, de l'eau elle-même, permettra de servir une plus grande population à coût égal.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Fodé, pour ce témoignage et cette analyse fort pertinente. Sur le gaspillage, justement, je voudrais rebondir en donnant la parole à Ali Simboro, qui est à Ouagadougou. Bonjour Ali Simboro.
Oui, bonjour Emmanuel.
Ali Simboro, vous êtes ingénieur hydraulique, diplômé du 2IE à Ouaga, et vous avez fondé un projet qui démarre tout juste, qui s'appelle Farafina Eco Water. Vous vous intéressez surtout en fait aux disparités de la consommation d'eau avec notamment le gaspillage dans certains quartiers, c'est bien cela?
Voilà, c'est bon.
Allez-y, vous êtes en direct, Ali.
Il faut dire que au Burkina Faso, vraiment, la ressource en eau est rare et difficilement mobilisable. Et à côté de cela, on a une augmentation de la demande en eau due à la croissance de la population, surtout en milieu urbain. Et malgré les efforts et la bonne volonté du gouvernement, le gouvernement n'arrive pas à fournir de l'eau potable de façon continue aux populations.
Oui.
Et en mars 2016, par exemple, l'ONEA a enregistré pour la ville de Ouagadougou.
La société d'eau, donc, hein, l'ONEA.
Voilà, l'ONEA. 48 000 mètres cubes jour, soit 1 300 000 habitants en situation de pénurie. Et les 2 700 000 habitants qui sont Ouagadougou. Et cependant, nous observons des pratiques de gaspillage d'eau, aussi bien dans les administrations que dans les résidences. Et pour lui, à souligner certains exemples, on peut constater. Et donc, l'objectif de Farafina EcoWater, le projet, c'est de promouvoir l'économie de l'eau et son utilisation rationnelle en milieu urbain,
oui,
en commençant par Ouagadougou.
Mais alors attendez, quand dans certains quartiers, on continue d'arroser la pelouse alors qu'il y a 1 300 000 personnes privées d'accès à l'eau à Ouaga, très honnêtement, les habitants qui ont le luxe d'avoir de l'eau pour arroser leur pelouse le savent très bien qu'il n'y a pas d'eau dans certains quartiers.
Oui, évidemment. Évidemment, ils le savent, mais il faut faire aussi sensibiliser toujours la nécessité d'économiser de l'eau et aussi l'intérêt économique que cela pourrait leur apporter. Parce que quand on parle de l'économie de l'eau, disons, la population a tendance à s'intéresser à l'impact sur leur facture. Mais il y a aussi, il y a surtout ce que Farafina EcoWater recherche, c'est de permettre au plus grand nombre de populations d'avoir accès à l'eau potable. Et si les autres économisaient, cela permettait de servir un plus grand nombre de populations.
C'est ça, quand il n'y a pas assez d'eau disponible pour tous, économisons-la dans les quartiers où elle est très largement gaspillée. Grégoire Landel, vous êtes d'accord là-dessus ?
Tout à fait. Enfin, c'est la meilleure ressource, c'est toujours l'économie.
Oui. Ça passe par une sensibilisation des habitants et pour une justice sociale, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple à faire.
C'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire, surtout que je ne suis pas absolument d'accord. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vivent dans des quartiers favorisés qui ne se rendent absolument pas compte de la situation des gens dans les quartiers défavorisés. J'ai pu le constater à Niamey, où j'ai des gens autour de moi qui sont très éduqués, etc., qui sont des gens intéressés, qui sont des gens avec une fibre sociale importante, qui me disent, quand ils viennent avec nous voir les gens qui n'avaient pas l'eau avant et qui l'ont aujourd'hui, ils se disent « moi, j'avais jamais réalisé un, que le Garoua, il vendait son eau aussi cher. Deux, que ce que ça pouvait dire en termes de vie de tous les jours. Et moi, je vis dans ma belle voiture.
Vous voulez dire des Nigériens, hein, pas des expatriés.
Des Nigériens, des gens qui vivent à Niamey.
Eux-mêmes qui ne sont pas au courant de comment vit un domestique dans son quartier, par exemple.
Mais ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils sont un peu déconnectés de la réalité. Alors, pas tous, évidemment. Il y en a plein qui sont au courant. Mais moi, j'en ai croisé un nombre non négligeable qui me l'ont dit. Ils m'ont dit d'ailleurs de manière... Ils étaient atterrés. Enfin, ils m'ont dit, mais Grégoire, j'avais jamais réalisé que c'était comme ça, à 500 mètres de chez moi.
Ouais, donc il y a un vrai travail de sensibilisation.
Donc je pense que le travail de sensibilisation est vraiment important.
Jean Bosco Bazier, vous êtes toujours en ligne avec nous à Ouaga. Sur ce travail de sensibilisation, vous imaginez qu'il y a une marge de manœuvre pour progresser, pour connecter davantage l'eau aux plus nécessiteux ?
Oui, évidemment, en matière de sensibilisation, on n'est jamais au bout de la peine. Mais je voudrais revenir quand même sur quelques éléments importants des disparités qui existent. Nous avons parlé des disparités entre des zones de résidentielles dans nos capitales et des zones périphériques. Mais bien évidemment, pour cela, quand il y a 2 millions d'habitants à alimenter et qu'on ne peut, en volume de production, fournir de l'eau qu'à 1 million 500, ben, il y a toujours une marge qui est laissée pour compte dans les villes. Mais le plus grave, c'est entre les villes et la campagne. Et vous savez que les deux tiers de la population résident en zone rurale, et nous avons des disparités de prix, mais qui sont hallucinantes, qui vont du simple au quadruple, voire même multiplié par 10. Je vous donne un exemple. Vous avez le mètre cube d'eau, la première tranche dite sociale, qui va de 1 à 8 ou 1 à 10 selon les pays, ou 1 à 20, qui est, je prends un cas, au Tchad, elle est à 105 francs CFA le mètre cube. Mais lorsque vous allez en zone rurale, dans ce même pays, où vous avez des systèmes autonomes qui doivent également alimenter des citoyens tchadiens comme tous les autres, le premier mètre cube, si le système veut être à l'équilibre, il va vous revenir à 1000 francs. Donc c'est de 1 à 10.
Oui.
Alors nous avons idem pour les autres pays. Au Burkina Faso, vous avez 188 francs la première tranche,
oui.
Le mètre cube. Mais lorsque vous allez dans des systèmes autonomes en petite ville ou en ville en campagne, ben vous passez à 400 ou à 500 ou voire 600 francs le mètre cube. Puis le système doit être à l'équilibre par lui seul. Tout simplement parce qu'en ville, et évidemment les investissements sont faits avec le soutien de l'État, avec un regard beaucoup plus sérieux de l'État, qui d'ailleurs même vérifie, surveille et décide du prix du mètre cube en ville. Mais en campagne, nos parents qui y sont, ils sont laissés pour compte. Et c'est là où nous disons, il faut que les gouvernements arrêtent ça. Parce que les citoyens sont un citoyen comme tout le monde. Ok, on n'a pas encore fini de régler les problèmes en ville, mais il ne faut pas oublier non plus les autres et qu'eux, ils doivent se débrouiller tout seuls pour que leur système soit à l'équilibre. Donc, et ce sont ces disparités qu'il faut également mettre en avant dans la gestion du problème global.
La difficulté de faire un tarif social dans les zones rurales, on voit bien que en fait, ça n'existe absolument pas, sauf sur le papier, mais que ce n'est pas du tarif social. On a bien compris. Tarif social, c'est évidemment c'est les premières tranches. Et ensuite, plus on consomme, plus on paye cher. Vous vouliez ajouter un dernier point, Jean Bosco?
Et le dernier point, c'est la transparence, parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue entre le fournisseur de services et le consommateur. Il n'y a aucun espace où consommateur...
Disons que le seul dialogue, c'est la méfiance, en tout cas, du consommateur qui pense que ces sociétés, et d'ailleurs, à tort ou à raison, mais souvent à raison, que ces sociétés sont mal gérées tout de même.
On ne sait quelle est la structure exacte, la structure réelle du prix du mètre cube d'eau produite et distribuée. Donc, il faut aussi que cette transparence-là, elle prenne pied.
Donc, inviter les consommateurs dans les usines, faire des visites touristiques dans les usines de traitement de l'eau, ça pourrait être intéressant. C'est ça pour que tout le monde comprenne que fabriquer de l'eau potable qui arrive jusqu'au robinet, ça coûte, ça a un prix et qu'il faut accepter d'en payer une partie.
Et je pense que ça serait valorisant pour les agents et les employés des compagnies d'eau qui travaillent dur, à mon expérience. Ce sont des gens qui sont engagés dans leur métier, qui croient dans la valeur sociale de ce qu'ils font et qui, en général, n'ont un retour de la population que quand les choses vont mal. Et donc, je pense qu'il y a un vrai bénéfice à faire mélanger ces deux populations, des gens qui ne demandent pas mieux que de faire correctement leur travail et des gens qui souhaiteraient être bien servis et légitimement, et pour que tout le monde apprenne à se connaître déjà et à comprendre un peu mieux ce qu'il faut. Mais je dirais une chose, c'est que pour améliorer les finances des sociétés des eaux, la première source de ressources financières, ce sont en général les administrations et les services de l'État qui, en général, ne payent que très épisodiquement leurs factures.
Voilà.
Et donc, pour faire baisser le prix de l'eau pour tout le monde, le meilleur payeur pour la Togolaise des eaux, la Société d'exploitation des eaux du Niger et tous les autres, c'est quand même l'État qui devrait commencer par régler ses propres factures.
Oui, et puis bien sûr des sociétés d'eau qui fonctionnent en toute transparence, ce qui n'est pas toujours le cas. Est-ce que l'expérience de Niamey, là, avec un système de factures prépayées que vous avez lancé au Niger avec votre entreprise française, est-ce que ça va s'étendre à d'autres villes africaines?
Nous le souhaitons évidemment, puisque nous, on pense que notre solution permet de mettre de l'huile dans les rouages, en fait, de permettre aux d'accéder à l'eau à un tarif qui est donc celui qui est le tarif réglementaire et à l'opérateur d'être payé correctement pour le service qu'il fournit.
En fait,
donc
nous, on souhaite vous coller au marché du téléphone portable, en fait.
Tout à fait.
C'est exactement le même système.
C'est la même chose.
Vous mettez de l'argent dans le porte-monnaie électronique et vous avez des unités d'eau au lieu d'avoir des unités de temps de parole ou de SMS.
C'est exactement la même chose et l'intérêt pour des gens qui ont des revenus qui ne sont pas toujours les mêmes ou qui peuvent vivre au jour le jour, c'est qu'ils peuvent justement créditer au fur et à mesure. Et si un jour ils ont un peu plus d'argent, ils peuvent le faire. Ce qu'on va aussi nous permettre de faire, c'est de permettre à la diaspora ou à d'autres d'alimenter les comptes des gens sur place. Et donc là, il y aura moyen pour quelqu'un qui habite à Paris d'envoyer de l'argent directement sur le compte eau de sa grand-mère.
Je te paye ta facture d'eau à Niamey.
Je t'avance de l'argent pour que tu puisses avoir de l'eau. Il n'y a plus de facture en fait, on a éliminé la facture. Donc je mets de l'argent sur ton compte eau. je te mets 2000 francs, voilà, tu as 2000 francs d'eau.
Voilà, ceci dit, bon, l'eau a toujours un prix. Hein. On dit souvent que le kilowatt pour l'électricité, c'est le kilowatt le plus cher sur le continent africain. Est-ce que l'eau la plus chère est sur le continent africain ?
Non. Non. Non, elle est la plus chère pour ceux qui n'ont pas l'eau chez eux.
C'est ça.
C'est-à-dire que la personne qui se fournit avec le Garoua à Niamey, lui, oui, effectivement, cette personne-là, elle paye très très cher l'eau. Surtout quand on prend en compte les différences de revenus. Mais sinon, les tarifs sont quand même très bas, comme l'a dit
Jean Bosco.
Jean Bosco, 105 francs le mètre cube, c'est pas très cher. À Niamey, c'est 127. Dans les tranches sociales, le tarif est faible.
Merci à vous d'ailleurs. Tous. Merci Grégoire Landel à suivre donc CityTaps qui démarre à Niamey. Merci à vous Jean Bosco Bazier de l'ONG Eau Vive. Et merci à Alice Imboro de Farafina Eco Water. Évidemment, tout est noté sur notre page des 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Merci à vous les voisins pour vos témoignages et vos analyses. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Nérand, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur la laideur. À l'occasion d'un livre sur l'histoire de la laideur féminine, nous nous interrogerons, être laid est-il un handicap dans nos sociétés ? Quelle tyrannie de l'apparence physique ? De New York à Séoul. À demain.